Aujourd'hui, l'Université d'Aix-Marseille, et plus particulièrement ses doctorants, s'invitent à Radio Grenouille dans le cadre de l'émission Profession chercheur. Parce que les chercheurs, ce sont aussi et surtout des personnes du quotidien, nous allons nous intéresser à quelque chose que nous utilisons tous les jours pour parler, échanger, lire et écrire, la langue ou plutôt les langues. Autour de cette table, 5 jeunes chercheurs, beaux, frais et forts comme une nuit étoilée balayée par le Mistral.
Bonjour à tous et à toutes. Donc, nous nous sommes réunis aujourd'hui après donc, 3 jours de discussions et de débats très riches avec vraiment des disciplines très différentes, des personnalités aussi très variées. Et nous avons décidé de reprendre un petit peu ce qui a émergé de nos discussions sur une thématique qui nous a tous traversés, qui est transversale non seulement à nos travaux de chercheurs, mais aussi à notre positionnement en tant qu'être humain. Je pense que la question de la langue, du langage et de toutes ses implications touche autant le rapport à la connaissance, à l'information, à la science que le quotidien et la vie de tous les jours. Donc du coup, on va faire un petit tour de plateau pour se présenter. On va commencer par ça. Cédric ?
Alors bonjour, je m'appelle Cédric, je suis en deuxième année de doctorat en physique des particules à Marseille, sur l'UMINI, sur 2 laboratoires. Et donc, pour faire bref, la physique des particules, ça repose à l'heure actuelle sur un modèle théorique qui s'appelle, très banalement, très simplement, le modèle standard. Alors, c'est un très très bon modèle, mais on pense qu'il est incomplet, et on est donc à la recherche d'un cadre théorique plus poussé, enfin nouveau. Et dans cette optique, je travaille sur 2 projets. Un premier objet où j'analyse une partie des données enregistrées par l'expérience LHCb, c'est un gros détecteur situé près du collisionneur de Hadron, le LHC au CERN, pour ceux qui connaissent. Et un second projet, plus théorique, où j'essaie de prédire des observables qu'on va pouvoir comparer aux mesures expérimentales.
Bonjour, bonjour Radio Grenouille, bonjour tout le monde. Je m'appelle Mouna Karimi, je suis cinéaste documentaire et aussi doctorante chercheuse à Aix-Marseille, dans le laboratoire du LESA, des études scientifiques des arts. Je me spécialise dans l'étude de la représentation des femmes au Maghreb, précisément au Maroc, et dans ce cadre-là, j'étudie énormément l'implication de la langue par rapport à la représentation féminine, voilà, sur plusieurs terrains.
Bonjour, je m'appelle Eva Reynal, je suis doctorante en littérature comparée à l'université d'Aix-Marseille. J'en profite d'ailleurs pour faire coucou à tous mes copains et toutes mes copines de la MDR, parce que c'est pas tous les jours qu'on passe sur Radio Grenouille. Mon sujet de thèse se traite de l'expérience de l'aller-retour dans des œuvres européennes au sortir de 1945. Donc il y a un auteur allemand qui s'appelle Dublin, un auteur espagnol qui s'appelle Jorge Semprún et un auteur français qui s'appelle Vercors.
Bonjour à tous, je suis Rachid Faoula, doctorant en deuxième année de thèse en histoire du droit, des idées politiques et des institutions. Mon sujet de thèse s'intitule « La pensée politique et constitutionnelle des niveleurs ». C'est un mouvement qui sévit, si j'ose dire, durant le XVIIe siècle en Angleterre, au moment de la première révolution anglaise. Et je suis donc amené à intervenir sur ce sujet-là, parce que les sources que je consulte dans le cadre de mes recherches sont en anglais, alors que ma thèse, elle, doit être rédigée en français.
Bonjour, je m'appelle Ingrid Taffer, donc je travaille moi en philosophie, donc je finis une thèse que je rédige là, en philosophie sociale et politique, et je travaille plus précisément sur des questions liées à la démocratie, donc qui implique de la démocratie participative, délibérative, on entend beaucoup ça dans l'espace public, mais reconfigurée plutôt sur la question du quotidien, de la sociabilité et de l'autogouvernement. Voilà. Donc, pour enchaîner assez rapidement, dans tout ce que nous avons vu au cours de nos discussions, déjà, il y a quelque chose qui m'a vraiment frappée. C'est une tension entre un rapport très intime, en fait, à la langue, à l'humain qui nous structure, qui raconte une histoire, notre histoire, et en même temps, qui est très prégnante, en fait, dans la construction qu'on va avoir de notre savoir et de nos recherches. Mouna, il y a quelque chose qui m'a vraiment touchée, en fait, dans ce que tu disais de ton rapport à l'autre et au terrain. Est-ce que tu veux bien nous en parler ?
Oui, Moi, il faut savoir que je suis marocaine, je travaille sur un terrain de recherche marocain, donc qui implique l'utilisation de la langue arabe, mais aussi que je rédige ma thèse en français, que mes ressources sont souvent des ressources littéraires françaises, un milieu d'évolution de travail ici en France, ce qui implique le fait d'utiliser deux langues au niveau de mon terrain, ce qui est très intéressant parce que l'approche de mes sujets de recherche n'est pas la même. En m'adressant à des femmes au Maroc en arabe, ça implique une certaine proximité avec elles. Donc un certain aspect de confidence.
Disais que tu pouvais pas avoir accès à cette parole-là, en fait, voilà. Si tu ne faisais pas partie d'une même culture, mm-hmm. quelque part, c'est ce que tu...
Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. En fait, tout en faisant partie d'une culture arabo-berbère, je pratique aussi ma recherche en français, ce qui fait qu'il y a une certaine distanciation. Et du coup, la parole recueillie est souvent un peu plus libérée parce que ces femmes-là ont face à elles quelqu'un qui les comprend dans leur manière de penser, dans leur manière de voir leur identité. Mais cette personne, du coup, moi, qui leur parle en français, leur donne accès à une liberté d'expression qu'elle n'arrive pas à avoir par rapport à leur langue, parce que du coup, ça va être beaucoup plus restreint, beaucoup plus tabou, beaucoup plus dans la symbolique, plutôt que d'être une parole libre et directe.
Oui, du coup, la distanciation que cette langue et ton éloignement aussi, peut-être géographique, te permet, et aussi une manière de libérer une parole des carcans, peut-être, de normes sociales ou d'implications culturelles qui peuvent être problématiques.
Exactement. Moi-même, je n'ai pensé... À travailler sur ce sujet de recherche qu'une fois que j'ai été dans l'ailleurs. Donc, ouais. Donc c'est très révélateur de cette distance qui s'installe. D'ailleurs, pour en donner un exemple concret, je te laisserai par la suite présenter l'association mot à mot, mais il y a quelques jours, tu as bien vu, on a été recueillir la parole de personnes qui apprennent le français, et en m'adressant à eux, ce qui était très intéressant, c'était la relation du tu et du vous, qui était très différent selon est-ce que je m'adressais à eux en arabe ou en français. Ça veut dire le tu.
On va écouter.
Oui.
Wesh, parce que. فاش كتهضري بالفرنساوي واش كتفكري بعدا بالعربيه كترجمي
وي
ياك دونك سي اون ترادكسيون سي بونسي دابور سا لانغ اي ابري ايسيي تروفي لي مو دو لا نوفيل لانغ
شويه
شحال هادي تقريبا انت كتعلم
الفرنسي
3 سنين ماشي 3 سنين
داكوغ
سي بيان
3 سنين معليش
Il y a 3 ans que j'apprends le français. Là, je commence à m'y sentir bien. Il y a 3 ans, je ne savais même pas écrire mon prénom. Là, je vais à la poste, j'écris mon adresse et c'est bien et je me sens bien.
Alors, en deux mots, l'association mot à mot est une association qui est juste à côté des studios de Radio Grenouille d'où nous vous parlons, en plein cœur de la Belle de Mai. Et qui propose des cours de français à des personnes qui habitent ici depuis peu, depuis longtemps, et qui ne sont pas calées sur une approche universitaire ou scolaire, on dira, mais plutôt sur les besoins du quotidien et de communication aussi générale. Donc pourquoi on est allé voir cette association? Parce qu'on a voulu aussi confronter nos discussions en tant que chercheurs à d'autres contextes de vie, étant donné que justement cet aspect de la langue touche tout le monde. Et on s'est dit que c'était peut-être pas mal d'aller interroger aussi des personnes qui sont directement concernées par par cette problématique qui va être d'habiter quelque part et finalement de ne pas pouvoir communiquer ou d'avoir des besoins autres. Alors du coup, je redonne la parole à Mouna sur cet extrait hein, que tu vas nous expliquer un petit peu.
Oui, alors en deux mots, le cours portait sur le tu et le vous. Et justement, en m'adressant à deux personnes du coup qui étaient présentes pendant le cours, en les questionnant sur pourquoi est-ce qu'ils voulaient apprendre le français, on aura eu l'une qui me répond avec un tu et l'autre qui me répond avec un vous. Et en fait, la distance n'est pas la même en langue arabe par rapport au tu et au vous. Ça veut dire la femme, pour se rapprocher de moi et à la fois pour avoir un certain respect par rapport au lien qu'elle est en train d'introduire avec moi, utilisera le tu, alors qu'en France et plus largement en français ou en langue latine, on utilisera plus le vous en fait. Et il y avait cette appartenance, ça veut dire je m'adresse à elle en arabe, donc c'est automatiquement le tu. Par contre, si je m'étais adressée à elle en français, ça aurait été le vous, justement, ce qui était très intéressant par rapport à ce point de vue de distance et de proximité.
D'accord. Du coup, en fait, là, on se rend compte justement de l'immersion culturelle des questions liées à la langue. Donc là, on parlait d'une zone géographique, notamment du Maroc. On parle aussi là d'un contexte français, au sein de la Belle de Mai. Mais Rachid, toi, tu avais une autre approche justement de cette dimension culturelle qui va plus dérouler en fait les siècles.
Oui, alors tout à fait. Moi, dans mon travail, je suis tout d'abord comme Mouna, je fais face, on va dire, à un problème qui est de restituer en français des idées qui sont émises en anglais à l'origine. Mais j'ai aussi une autre problématique qui est celle de la traduction à travers les siècles. Et il y a des concepts qui, comme ça, vont évoluer et qui n'ont déjà pas le même sens en Angleterre au fil des années et qui en ont encore moins en France. Je prends par exemple le cas du droit de naissance anglais au XVIIe siècle. Un anglais au XVIIe siècle à qui on dit le droit de naissance en tant qu'anglais, il comprend très bien tout ce que cela véhicule derrière. En France, pas du tout. Je suis donc obligé, si vous voulez, de définir la notion avec mes mots à moi et en français, en prenant le risque de peut-être parfois dénaturer quelque peu l'idée originale. L'autre problème... tout le monde est confronté à ce problème-là, même au-delà de la traduction, quand on travaille sur le temps, c'est le danger de l'anachronisme. Par exemple, prenons un cas, le libéralisme. Aujourd'hui, tout le monde sait ce que c'est. Eh bien, à l'époque, il y a des idées qu'on peut qualifier aujourd'hui d'étant libérales. Seulement, moi, je ne peux pas me permettre d'écrire que tel auteur est un auteur libéral, puisque la notion à l'époque n'existait pas encore. Je dois donc m'efforcer de traduire sa pensée du mieux possible, sans pour autant lui coller une étiquette qui, à l'époque, n'existait pas. Je prendrai aussi, si vous me le permettez, d'autres exemples. On dit toujours « parler, c'est traduire sa pensée ». Écrire, c'est aussi traduire sa pensée. Et parfois, vous faites face à des auteurs qui, eux-mêmes d'ailleurs, au travers de leurs écrits, se contredisent. Et vous avez quand même pour fonction, si vous voulez, de traduire leur pensée. Alors même que celle-ci se contredit d'elle-même, vous devez donc rester fidèle à une pensée que vous-même, parfois, n'arrivez pas à totalement cadrer. Enfin, dernière petite difficulté, je dirais c'est un peu, vous savez quand on est chercheur, parfois on voit des comparaisons possibles, et emporté par notre enthousiasme, on peut parfois, malgré nous, commettre des petites approximations.
Alors justement, dans ces approximations et dans l'usage qu'on va faire de ce sens qu'on construit finalement par rapport au réel, hein, on décrit le réel, on donne du sens, on construit finalement aussi le réel et la culture dans laquelle on vit et qui va justement perdurer. Est-ce que traduire, c'est trahir ?
Oui, tout à fait, parce que, enfin, vous me direz, je suis très catégorique, mais si je dois le dire en 20 secondes, je dirais que oui, puisque, vous savez, moi-même, j'écris parfois, et je pense que c'est le cas de tout le monde ici, parfois on est en train d'écrire ce qu'on a en tête, et vous savez, on a tous dit à quelqu'un, je ne sais pas comment te le dire. Vous savez, pour moi, c'est symptomatique. Il y a une difficulté, si vous voulez, dans toute langue, à mettre par écrit ou par oral, la pensée de l'être humain. Alors quand vous devez, en plus de cela, vous traduire ce qui est déjà une traduction à la base, vous faites ce qu'on appelle grossièrement du téléphone arabe, sans pour autant passer par 10 ou 15 intermédiaires.
Oui, c'est compliqué. Du coup, Mouna, justement, sur cette question du téléphone arabe ou des nuances qu'il peut y avoir dans une langue et dans une autre, on pense aussi dans une langue. Tu nous parlais justement de différentes manières de dire ce qui va être traduit en français par un mot.
Bah, du coup, effectivement, enfin pour un peu contextualiser, on est dans une langue qui est tellement riche de par les nuances qu'elle offre à chaque notion. Du coup, on se retrouve avec en moyenne 5-6 synonymes. En fait, le mot synonyme n'est même pas juste parce qu'en fait, ce n'est pas l'exacte traduction, mais des nuances différentes. Donc, pour le mot amour, on aura le mot hub, ishq. Hanan, Sharaf, Wood et Gharam. Je sais que ça semble un peu n'importe quoi, mais...
Pas du tout, c'est très beau.
Donc voilà, on a des sonorités complètement différentes, mais qui révèlent pour un même mot des nuances différentes. Donc ce n'est même pas des utilisations différentes d'un amour maternel ou charnel, ou voilà, mais c'est vraiment pour le mot amour qui en englobe plusieurs, on aura plusieurs nuances différentes. Mais c'est assez normal parce qu'on pense depuis une culture, on se construit dans une culture. On a des catégories linguistiques existantes et qui sont différentes. Du coup, moi je me retrouve assez dans la citation du « je ne suis pas ce que je pense que je suis » et « je ne suis pas ce que vous pensez que je suis, je suis ce que je pense que vous pensez que je suis ». Donc voilà, c'est assez particulier parce que penser en une langue, c'est penser en une culture. Donc du coup, quand on en maîtrise plusieurs, on pensera en différentes cultures. Par contre, quand on n'en maîtrise qu'une seule, mais qu'on est amené à traduire, la difficulté rejoint ce que disait Rachid. C'est que ça va devenir compliqué.
Absolument. Alors, au-delà des spécificités justement culturelles des langues, on se rend compte aussi dans nos différents travaux, mais bien au-delà, qu'il y a aussi une dimension qui est quand même assez profondément enracinée, de vouloir aller au-delà justement des spécificités et des différences et de communiquer plus largement, voire une visée universelle un peu de la langue, du langage, alors qui va être incarné dans ce beau projet qu'est l'espéranto, qui va être incarné également par le langage mathématique, par la musique. Alors là, du coup, je me tourne vers Eva, justement, sur ces questions-là de la langue comme peut-être une entreprise de réconciliation, tu disais.
Oui, effectivement. Alors, l'exemple de l'espéranto, c'est probablement l'un des plus beaux. L'espéranto, donc petit rappel, a été créé, c'est une langue inventée toute pièce, une langue universelle qui pioche dans toutes les autres langues, par Ludwig Zamenhof, dit Doctoro Esperanto. Il crée cette langue dans les années 1880. Et le paradoxe, c'est que cette belle invention d'un langage universel qui s'apprend très facilement, a été, pour cette invention, il a été plusieurs fois proposé pour le prix Nobel de la paix. Et malheureusement, pendant la Seconde Guerre mondiale, ces trois enfants, eux-mêmes espérantistes, ont été assassinés par les nazis, puisque Hitler considérait que l'espéranto était une langue dégénérée et une manière pour le fameux complot juif de dominer le monde en faisant disparaître les langues et en imposant le diktat d'une seule, qui n'est évidemment pas le cas de l'espéranto.
Donc du coup, cette dimension aussi de visée universelle de l'espéranto se retrouve dans le langage mathématique, tu disais, Cédric ?
Oui, dans mon domaine, en fait, déjà, on est confronté effectivement au problème de ne pas travailler dans notre langue maternelle, à moins qu'on soit anglophone. Effectivement, tous les articles, les collègues, les conférences, on s'exprime de manière systématique en anglais. Mais heureusement, on n'a pas besoin déjà d'un anglais qui est très nuancé, contrairement à Rachid dans son domaine. On a plutôt besoin d'un anglais finalement mode d'emploi, un anglais plutôt simple, concis, sans double sens. Et a fortiori, c'est encore plus cédé, puisque dans les sciences dures, tout propos est sous-tendu par les mathématiques, alors que ce soit carrément au niveau de la formule mathématique de base ou par la logique mathématique qu'il y a derrière.
Oui, d'ailleurs, sur ce propos, il me semble que tu nous avais préparé une petite chronique.
Alors, oui. Oh.
La chronique de Cédric.
Alors, le produit du nombre imaginaire et du gradient spatio-temporel, pondéré par les matrices de Dirac, moins la masse M, le tout appliqué au bispinneur de Dirac, est égal à, devinez quoi, zéro.
Alors comment on simplifie ça?
Alors ça, c'est... Voilà, c'est...
Comment on traduit ça?
Vous avez 4 heures.
Alors ça, c'est...
Je rappelle que c'est une visée universelle de la...
Alors là, justement, c'est pas tout à fait universel parce qu'elle est énoncée en français. Et si on la traduit en caractères mathématiques, finalement, elle se résume à 8 petits caractères. Ces 8 petits caractères, ils sont compréhensibles par tous les physiciens de la planète ou même les mathématiciens. Et derrière ces 8 petits caractères, les conséquences sont gigantesques. Hein. Cette équation, elle vous prédit, c'est l'équation de Paul Dirac, pour la recontextualiser, elle vous prédit l'existence de l'antimatière, le spin des électrons et de toutes les fermions, et c'est une des premières équations à faire coexister la mécanique quantique et la relativité restreinte. En 8 caractères. Incroyable.
Absolument incroyable, oui. C'est-à-dire... Alors, pour rebondir là-dessus, en fait, bon, moi, ça me parle un petit peu, cette idée de formalisation un peu d'abstraction, puisque j'ai aussi fait de la logique formelle et de la logique normale appliquée à l'argumentation. Alors là, l'idée, c'est de prendre justement des arguments et d'essayer de les formaliser de manière logique, vraiment. A ou B implique C, enfin, ça prend des formes un peu comme ça. Et du coup, de travailler sur les structures de raisonnement. Et je me suis rendu compte que c'était un outil qui est quand même assez formidable hein, pour plein de choses, pour justement faire des arbres argumentatifs de possibles, de contre-arguments, d'arguments, etc. Ceci dit, ça oublie une dimension fondamentale de la langue qui est aussi contenue vraiment dans l'implicite, dans la richesse, dans l'ambiguïté. L'ambiguïté est une ressource aussi. Et dans vraiment des choses qui ne peuvent pas être contenues justement dans un aspect logique, dans le logos, dans la construction rationnelle. Et finalement, on se rend compte que même si on a des visées universelles qui vont dans l'abstraction, elles ne peuvent pas contenir le réel, l'unité de l'être humain, je le dirais peut-être comme ça. Du coup, je vous propose d'écouter, là, pour illustrer un petit peu ça, puis pour le plaisir de nos oreilles, une chanson qu'a trouvée Eva pour nous aujourd'hui, en espéranto.
Une composition originale qui s'intitule, je ne parle pas espéranto, mais je suppose que ça s'intitule « Tiel la mondo iras ».
Tiela mondo iras, tiela mondo iras, tiela mondo iras, tiela mondo. Tiela mondo iras, tiela mondo iras, tiela mondo iras, tiela mondo. Lundo mercredo sabato, mardo jaudo kai dimancho. Jen milito, jen la pazzo, jen infano cum malsato. La misiloi prescau falas, la colomboi mal consentas. Estas tiel, estas tiel. Jen virino quiune sidas, char laboro ciam estas. Cai la patro quiune alvenas, char la pocho estas mal plena. Tion da manoi qui construas, cae la liai qui detruas. Estas tiel, estas tiel. Tiela mondo iras, tiela mondo iras, tiela mondo iras, tiela mondo. Tiela mondo iras, tiela mondo iras, tiela mondo iras, tiela mondo. Dexes horoi qui mamut lentas, caioc horoi qui silentas. Multae homoi qui rapida, jam alia tago venas. Ni profitu la momenton, char la vivo ne atendas. Estas tiel, estas tiel. Lundo mercredo sabato, mardo jaudo cae dimancho. Jen milito, jen la pazzo, jen infano cum malsato. La misiloi prescau falas, la colomboi mal consentas. Estas tiel, estas tiel. Tiela mondo iras, tiela mondo iras.
iras tiel la mondo iras tiel la mondo tiel la mondo iras tiel la mondo iras tiel la mondo iras tiel la mond iras por mi iras por vi iras por chi, iras por li, tiel la mondo, iras por mi, iras por vi. Iras por chi, iras por li, tiel la mondo, iras, tiel la mondo, iras, tiel la mondo, iras, tiel la mondo. Tiel la mondo iras, tiel la mondo iras, tiel la mondo iras, tiel la mondo iras.
Alors, vous êtes toujours sur Radio Grenouille dans l'émission Profession chercheur. Et après justement cette écoute d'une chanson en espéranto, hein, qui est la langue à visée universelle au-delà de toutes les cultures, on peut revenir justement sur cette dimension de la langue qui est en rapport avec la pensée. Est-ce qu'on pense dans une langue et comment justement est le rapport entre une langue qui va être construite pour aller au-delà des différences culturelles et la structuration qu'on peut avoir justement quand on est quelque part, puisqu'on est tous quelque part finalement. Et comment ça interagit avec notre identité, notre manière d'être et aussi dans le travail, Mouna.
Oui, moi je pense que d'abord il faut poser certaines questions. Donc, dans quelle langue est-ce que je me retrouve? Est-ce que c'est ma langue d'origine, ma langue d'adoption? Finalement, est-ce qu'on est libre de choisir sa langue, la langue dans laquelle on s'identifie? Est-ce que cette langue-là a un rapport avec notre culture de naissance où on a grandi, ou une culture qu'on adopterait et dans laquelle on se retrouverait plus? Donc toutes les réponses à ces questions peuvent mener à se dire finalement que une langue, ça sera l'expression de soi, de son identité. Moi, je vois par exemple, pour moi, personnellement, je me retrouve autant dans le français que dans l'arabe. Et ça ne vient pas d'un rapport historique de pouvoir dans un pays où la langue française est quand même une langue officielle. Je prends comme exemple un sondage qui a été fait au début de cette année. 75% des gens interviewés au Maroc, interrogés au Maroc, ne se disaient pas bilingues, ne se considéraient pas bilingues, tout en parlant français et arabe. Ils se considéraient bilingues à partir du moment où ils parlaient l'anglais, parce que pour eux, cette langue était étrangère. Donc ça veut dire pour eux, le français était une langue maternelle, mais qu'ils n'envisagent pas comme une langue imposée par un pouvoir, par une histoire, par tout ce qui est postcolonialiste, mais vraiment par l'expression d'une double identité. On est dans un pays où l'identité est très ouverte vers l'Europe, où le premier pays d'accès est le français, et la France, pardon. Et du coup, on a un mode de pensée qui est fragmenté. Donc, quand je penserai en arabe, je parlerai en arabe. Et quand je penserai en français, je parlerai en français. D'ailleurs, avec Rachid, on avait un exemple très intéressant à l'association mot à mot. C'est qu'au moment où il a fallu interviewer des gens qui parlaient à la fois anglais, arabe et français. Rachid, tu me disais que ton réflexe à toi aurait été de parler en français, puis de demander si quelqu'un avait besoin d'une traduction, c'est ça?
Oui, tout à fait. J'ai remarqué que tu avais eu un espèce de réflexe que tu as acquis, je pense, en raison de ton travail de terrain dans le cadre de tes recherches, c'est que automatiquement, tu posais les questions dans les trois langues à la suite. Alors que moi, j'aurais eu plus tendance à poser la question en français, vu que je me dis que je suis en France, et puis demander dans la salle qui n'a pas compris, qui a besoin que je lui répète la question en arabe ou en anglais, au besoin. Et du coup, tu as tellement, j'ai envie de dire, tu as tellement été en immersion dans ton travail que tu as développé un certain réflexe qui me semble, moi, peu commun.
Qu'on va écouter, oui, d'ailleurs, tout de suite. Séquence.
Any language you want. There's English, there's French, there's Arabic. So, أي سؤال بغيت تفوت إلا قدرنا نهضروا معكم. If we can talk, sorry, a lot of iPhone things. C'est juste des questions, en fait, par rapport à votre rapport à la langue. كيفاش نتوما كتحسوا براسكم مع اللغة اللي كتعلموها؟
Voilà. Et là, dans cet exemple, on se rend compte aussi que ben, l'accès à la langue, c'est quand même c'est important et c'est aussi une question de pouvoir. Hein. Ça donne à pouvoir faire des choses, à pouvoir se débrouiller, hein, disait-il, ces personnes qui apprenaient le français, qui est source aussi de légitimité, d'autorité, qui peut être aussi vecteur de domination. Hein, sur cette question éthique, politique, sociale de la langue, Eva peut-être...
Et oui, parlons bien, parlons politique, parlons pouvoir. Alors, effectivement, alors moi, mon domaine d'étude, c'est la littérature en Europe en 1945. Il faut savoir que les atrocités commises par les nazis ont posé la question de savoir s'il était possible d'écrire dans la langue qui a servi à un projet de domination d'une partie de l'espèce humaine, c'est-à-dire l'allemand. En d'autres termes, en 1945, la question était de savoir, l'allemand a-t-il encore sa place comme langue humaniste, d'accord ? Et c'est une question qui était très sérieuse, puisque pour les plus philologistes d'entre nous, Victor Klemperer, qui est un spécialiste de la langue allemande, avait publié un carnet nommé LTI, des notes clandestines prises pendant le Troisième Reich, où il décrivait la langue allemande comme une langue technique, arianisée, un outil de propagande et de conditionnement, et volontairement conditionné justement par le ministère de la Propagande. On parle actuellement de novlangue. La novlangue, pour ceux qui ont lu 1984 de George Orwell, c'est une langue imaginaire qui est la langue d'Océania, la dictature dans laquelle vit le héros de l'histoire. La novlangue simplifie et euphémise le pire. Et en simplifiant la langue, elle simplifie donc la pensée. On pourrait parler même de purification linguistique.
Alors là, on est au cœur de l'actualité avec ça, hein, puisque je rappelle peut-être à tous, s'il en est besoin, que justement l'administration Trump a justement fait un usage assez controversé justement de la langue récemment, notamment avec le fait de réalités alternatives ou d'autres choses comme ça, qui sont aussi des anecdotes, je trouve, très croustillantes.
Oui, moi je voulais aussi soulever les enjeux de pouvoir qui existent dans l'utilisation d'une langue par rapport à notre travail de recherche, parce que quand même, faudrait peut-être y revenir un peu, l'éthique du chercheur, comment est-ce qu'on choisit la langue qu'on va utiliser pour son travail. Alors moi j'ai choisi d'écrire ma thèse en français, parce que oui, d'abord je la fais en France, donc c'est une question de légitimité aussi de travail, mais il y a aussi, il faut pas il faut pas négliger ça, un rapport de pouvoir, et rédiger une thèse en français la rend peut-être un peu par rapport au fait qu'elle sera ensuite homologuée par une commission au Maroc, qui aurait très bien pu me proposer de la faire en arabe, sauf qu'en fait il y a une dimension élitiste aussi quelque part à l'utilisation du français.
Elle a plus de valeur en français,
et ben ça veut dire qu'elle sera prise, beaucoup plus prise en compte, mais il faut se remettre dans un contexte, c'est qu'on est dans un pays où la recherche est largement financée par la France, où il y a énormément de collaborations, où il y a énormément de ponts, et c'est un désir politique aussi d'être dans un pays frère. On voit tous les liens politiques qui existent entre la France et le Maroc, et la recherche s'inscrit dans ça. On va avoir l'annexe le siège maghrébin du CNRS qui se trouve à Rabat. On va avoir un groupement de 173 laboratoires de recherche français qui ont des annexes là-bas. Donc vraiment, il y a un rapport de pouvoir. Ça veut dire ma thèse en français est peut-être plus valorisée que si elle est écrite en arabe, alors qu'une thèse en arabe est beaucoup plus difficile, prend plus de temps et est beaucoup plus difficile à rédiger.
Je voudrais rebondir sur ce que tu viens de dire, Mouna, quand tu parles d'éthique du chercheur. C'est une question à laquelle je suis très sensible, parce que vois-tu, j'écris ma thèse en français, comme tout le monde le sait maintenant. Toutefois, vous savez, il y a des moments où je serais bien ravi de pouvoir l'écrire en anglais, pour ne pas avoir à commettre, ce que je disais tout à l'heure, des petites approximations. Parce que parfois, vous savez, le chercheur, il peut, c'est un bien grand mot, mais il peut violer, si vous voulez, une certaine éthique sans pour autant le vouloir, à vouloir restituer une idée qui est difficilement restituable dans une langue différente.
Donc voilà.
Oui, du coup, ce poids culturel, idéologique, politique, traverse vraiment pas mal de domaines, hein, ne serait-ce que dans l'évolution des mots, hein, la force de l'usage de certains mots, que ce soit justement
dans l'accent,
dans la représentation justement de certains domaines de recherche, plutôt dans une langue que dans une autre, et finalement, de par le poids économique et culturel qu'incarnent en fait les nations et les langues, quoi.
Oui.
Alors, pour rebondir justement sur ce que disait Mouna, c'est très intéressant parce que, en parlant du choix d'écrire la thèse en français, ça rappelle tous les rapports de domination de la langue, du temps notamment de la colonisation. Alors, je vais vous conseiller un autre livre, c'est bien, ça vous fera plein de livres pour l'année.
Beaucoup de références aujourd'hui.
Voilà. Ça s'appelle « Décoloniser l'esprit » de l'écrivain kényan Ntiongo, publié en 1986. Et Ntiongo, écrivain kényan mondialement connu, mais qui publie en anglais. Et il explique qu'il a été à l'école en anglais, et il a été formé à penser en anglais, donc à entrer dans un cadre, le cadre britannique, le cadre, même si c'était par la suite décolonisé, mais un cadre colon, le cadre de l'envahisseur. Et par la suite, il a pris la décision de publier en kikuyu, qui est du coup sa langue maternelle, sa langue, on va dire, véritable, authentique. Et il explique qu'en en faisant cela, il s'est débarrassé d'un certain carcan idéologique. Logique.
Oui, et puis parler dans une langue, ce n'est pas forcément se comprendre. Donc, c'est là où s'arrête enfin, c'est là où il y a une limite. Bon, pour moi, clairement, les langues aujourd'hui vont vers un chemin où elles intègrent des nouvelles notions, donc on crée des nouveaux mots, où on importe des mots d'autres langues pour les incorporer. Et je trouve, pour moi, c'est une richesse. Ce n'est pas trahir une langue, parce qu'une langue n'est pas censée être figée dans un temps, mais pour moi, c'est une richesse. C'est permettre de communiquer, un vivre ensemble, se connaître et voilà, et être beaucoup plus dans le lien.
Voilà, merci à tous. Et pour finir cette émission, je lirai un poème justement que j'ai découvert et qui a fait écho justement à toutes nos discussions hier et aujourd'hui, de Marlène Tissot. Est-ce que les mots pensent ce qu'ils disent? Savent-ils s'excuser lorsqu'ils vont trop loin? Je fais partie du monde et le monde fait partie de moi, murmurent les mots dans ma tête. Mais je ne les crois pas. Ils mentent si facilement. Ils détournent l'attention et transforment l'eau en vin. Les politiciens le savent bien. Et les patrons, les parents, les beaux-parleurs, les tyrans, les manipulateurs, les séducteurs, tous, ils savent cela. Et les poètes, également.
Pendant plusieurs jours, nous avons discuté, proposé et débattu sur le thème de profession chercheur. Donc sur le thème du langage et les problématiques qu'il fait surgir. Cette émission éphémère en est le résultat final et nous espérons qu'elle vous aura plu.
La plupart d'entre nous s'est exprimé pour la première fois à la radio. Alors, nous remercions sincèrement l'équipe de Radio Grenouille pour sa patience. Nos formateurs, Jérôme Mathéo, Nicolas Chevassus-Auluy et Philippe Hert pour leurs conseils, La Friche pour ses petits plats, le Collège Doctoral d'Aix-Marseille Université pour cette initiative, et vous, chers auditeurs, pour votre écoute. À bientôt.
Merci beaucoup.